Bon, ce matin, tu poses la question suivante. Est-ce que les contrats d'exclusivité avec des employeurs tiennent encore la route?
Oui, parce que à une époque, puis c'est encore le cas dans certains employeurs, chez certains employeurs, quand tu signes un contrat, on dit « vous vous engagez à ne pas être en double emploi ». Vous vous engagez à ne pas être en concurrence avec quelconque activité de l'entreprise. Vous vous engagez à être disponible à l'employeur, etc. Et avec la réalité d'aujourd'hui, on ne peut plus demander ça aux gens parce que qu'est-ce qui est le temps personnel et qu'est-ce qui est le temps de travail? Je te donne un bon exemple. Le premier qui vient à l'esprit, c'est les professeurs et les enseignants. Si on leur dit... Vous n'êtes plus obligé d'être présent à l'école. Là, je ne parle pas des profs de primaire ou de secondaire, mais ceux qui ont déjà des horaires variables. Quand est-ce que tu détermines que c'est du temps personnel ou du temps d'emploi? Si tu prépares un cours de 9h à 10h le soir, tu dois te prendre un break de 9h à 10h le matin. Même chose avec un employé qui, un employeur, est en télétravail, mais on the side, excuse-moi l'expression, mais va faire son cours de courtier immobilier. OK? Puis un an plus tard, il a son cours, puis il s'inscrit dans une bannière, puis il commence avec quelqu'un, tu sais. Puis il paye les services d'un adjoint ou d'une adjointe pour prendre ses téléphones. Alors techniquement, tu peux être disponible comme courtier à des moments précis dans ta journée prédéfinie, mais tu peux aussi travailler pour un autre employeur en même temps. Et qui peut venir te dire quoi que ce soit quand tu y penses, si tu fais ton travail, que tu le livres? Donc, on va tomber dans une...
Ça dépend dans quoi tu... Oui. Tu sais, parce que des...
Tu peux pas être gardien de sécurité et en même temps faire autre chose.
Non, mais tu sais, je pense à des policiers qui peuvent avoir des emplois autres, mais qui peuvent pas. Là, écoute, il y avait une certaine liste là, dans les bars, puis tu sais, où tu te dis, t'es propriétaire de bar directement, t'es policier, tu peux-tu faire ça? Pas vraiment. Tu sais, des trucs qui te mettraient en conflit potentiel, non.
Mais les pompiers, de toute façon, font ça depuis le début des temps, donc c'est pas nouveau pour eux, mais
c'est ça.
Les doubles emplois. Mais pour le reste de la population, il va y avoir des gens qui vont dire, moi, je suis capable pas de te fournir du temps, pas de fournir des procédures, je vais te fournir des résultats. Et les employeurs avec le télétravail parlent de résultats. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Alors, quelqu'un qui fournit les résultats, moyen et supérieur, peux-tu lui dire quoi que ce soit s'il a une autre activité professionnelle? C'est pas tes affaires tant qu'il ne vient pas en conflit avec les activités premières. Parce que jusque où, faut que tu donnes ton temps à l'employeur. Et là, on arrive dans les zones grises, c'est-à-dire les employés qui ne sont pas payés à l'heure, mais ceux qui sont payés à l'année. Et que le temps supplémentaire est comme bénévole. C'est quoi qu'on peut demander comme employeur? Les pratiques du passé ont disparu. Écoute, je te donne un exemple. Des bureaux comptables d'une grande firme, Paul, on ne comptait pas nos heures, tu comprends? Puis le salaire était ce qu'il était. Aujourd'hui, les employeurs offrent aux employés des bonus pour rester jusqu'à la fin d'une période. C'est comme, reste encore 4-5 mois, je vais te donner un autre 4-5 000. Tu comprends? Et donc, il y a eu ça, là, ce mouvement-là de compréhension que l'employé n'est plus obligé d'être pour toi disponible et te donner une partie de sa vie sans qu'il sente qu'il y ait de quoi. Alors, je crois qu'on va voir de plus en plus des slashers, qu'on appelle. C'est des gens qui cumulent des emplois et qui se définissent par une polyvalence et par des multitudes de fonctions sans se définir par l'employeur par qui ils travaillent. Et ça, c'est une autre affaire sur la pénurie de main-d'œuvre parce que, pense-y, si tu travailles pour un employeur puis tu en as un deuxième qui te fournit 30-35% de ton revenu, si ton premier te taquine trop, tu dis, c'est pas grave, j'en ai un deuxième en même temps. Et ça aussi, ça vient donner des coups de barre aux employeurs en leur disant « Tes employés, c'est une relation d'affaires maintenant. Faut que tu le traites tellement bien pour qu'ils trouvent qu'il y a autant de bénéfices que toi de travailler pour toi. » Et ça, ça va vouloir se dire de la flexibilité, autant au niveau du temps, mais au niveau de la capacité de travailler ailleurs en même temps.
Là, tu nous parles d'une autre compagnie dont la valeur boursière, s'est stabilisée.
Ben, disons qu'elle a chuté de 32% hier.
Ouais.
C'est DocuSign, cette fameuse entreprise que... Vous pouvez signer un contrat notarié,
oui.
Un contrat avec vos placements, ou peu importe, donc les contrats légaux à distance. Il y a des avantages quand même. Un, les déplacements sont limités. Deux, le préparateur du document peut vous diriger vers où signer. Donc, on arrête d'oublier des signatures avec des post-it. Trois, accélération du processus transactionnel. Puis là, vu qu'on voyait tout ça, les gens ont commencé à acheter des actions de tout ça en disant « Tabarouette, c'est l'avenir hein? ». Et donc, DocuSign a explosé en bourse pendant la pandémie en doublant de valeur, évidemment. Mais là, hier, 32% de pertes. Donc, depuis le début de l'année, on se retrouve à quand même un gain de 5%, mais 32% hier de pertes. Et pourquoi? Ben, les résultats sont décevants parce qu'on réalise, imagine-toi donc, quelque chose de complètement fou, que l'anticipation des investisseurs ne s'est peut-être pas matérialisée comme on pensait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident de retourner à l'ancienne vie. Tu sais, celle où on se rencontrait, où on rencontrait des gens, qu'on signait des papiers légaux. Mais il y a des gens qui tiennent encore à ça ou des entreprises qui disent, sais-tu quoi? On aimait mieux ça pour X raisons. Parce que ça, c'est vrai l'autre affaire. Hein? La relation client, elle s'étiole avec ce genre de document-là. Parce que rencontrer quelqu'un physiquement, c'est un genre de séduction. Autant pour ton notaire, ta relation que tu développes avec, autant pour ton courtier immobilier. Donc, si tes transactions professionnelles deviennent des clics dans un courriel, il y a quelque chose qui meurt dans l'attachement. Et les gens qui sont dans la vente, dans la représentation, dans le conseil, savent une chose. La relation affective vaut très cher. Les gens, des fois, sont pas satisfaits de ton service, mais ils t'aiment bien. Fait qu'ils veulent que tu restes, ils veulent que tu sois bon. Et donc, DocuSign a vu dans son dernier trimestre, oui, 545 millions de revenus, mais 5,7 millions de pertes. Et pourquoi? Parce que l'anticipation n'a pas été ce qu'on croyait. Puis la même chose avec Zoom. Hein? Zoom est rendu à 186$ l'action, mais à cause des téléconférences. Mais en milieu de pandémie, on était à 560$ l'action. Et donc, des fois, faut pas s'exciter trop devant des titres boursiers qui ont l'air d'être l'avenir.
Ils sont la saveur du mois, là.
C'est ça. Puis dites-vous que Zoom, il y a Microsoft en arrière qui regarde ça puis qui dit, ben nous autres, on a Team. Puis quand vous allez être au plancher, on va investir massivement. Et donc, il y a toujours des concurrents qui arrivent et des situations qui évoluent. C'est fascinant.
Merci, monsieur. Bonne fin de semaine. 7h21.